Merci beaucoup. J'ai essayé de le rallumer. C'est bon, vous m'entendez? Non, ça marche?
C'est bon. Ouais.
Merci beaucoup. Alors, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, Antoine m'a gentiment proposé de le relayer sur le sujet. On n'entend pas?
Pas bien? Ah, là, c'est beaucoup mieux. Okay. Pardon. Donc, effectivement, j'interviens dans la suite de ce que Antoine Ménager vous avait présenté. J'étais son adjointe sur le débat public de Penly. Donc, normalement, c'est à peu près ce qu'il a dû vous raconter et j'ai la chance de prendre la suite ce soir, notamment parce que moi je suis très impliquée sur la préparation du projet de budget et donc je suis basée à Lyon et donc un peu plus proche d'ici, voire même, alors, est-ce que c'est toujours bien? C'est ni trop ni trop peu là, c'est ça? C'est bien? Ok. Alors effectivement, pourquoi est-ce que c'est plus simple si c'est moi qui raconte ce que je fais? Mon titre il s'appelle directrice du pair meeting. Et donc, c'est pour ça que je vais plutôt vous expliquer, moi, ce que c'est. Pair meeting, exactement. Un anglicisme pas très joli, mais qui n'a pas vraiment d'équivalent français, qui veut dire permettre. En fait, notre travail, c'est permettre la réalisation des projets nouveaux nucléaires, et notamment EPR2, par la préparation dans les territoires, par la concertation et le débat public, par la recherche du foncier, par l'obtention de toutes les autorisations administratives, voilà, tout ce qui prépare les conditions d'accueil dans le territoire. Alors ça va loin, hein, c'est aussi la discussion pour créer des nouvelles routes d'accès pour pas qu'il y ait des bouchons le matin pour aller sur les chantiers, c'est aussi préparer les logements pour accueillir les futurs salariés. Voilà. Ça embarque tout ça. Donc effectivement, je confirme, on ne s'ennuie pas. Auparavant, donc, je suis ingénieur géologue et pendant 20 ans j'étais très spécialisée dans les sujets de pollution des sols. C'est comme ça que je suis rentrée à EDF après 10 ans de carrière à l'externe et j'étais experte pour EDF des sujets de pollution des sols et des eaux souterraines. Et je travaillais beaucoup en relation finalement avec les ministères, avec la Commission européenne sur ces sujets-là. Et le fil conducteur qui m'a amené au projet EPR2, c'est que finalement, dans tout ça, j'ai toujours beaucoup travaillé avec l'externe, avec nos parties prenantes, que ce soit les administrations, que ce soit le public. Et donc aujourd'hui, je fais un peu la même chose qu'avant, mais pour des projets un peu plus gros, puisque c'est pour construire des nouveaux réacteurs nucléaires. Alors aujourd'hui, du coup, je n'avais pas beaucoup de cadrage, donc j'ai décidé de vous parler de ce que je connais bien, plutôt l'actualité des projets et cette phase amont, là, de comment est-ce que finalement on est arrivé à préparer les conditions pour lancer le programme nouveau nucléaire, comment on en arrive aujourd'hui aux décisions qui sont prises, qu'est-ce qui est en cours sur les 3 sites que vous connaissez, sur lesquels seront implantés les EPR2, et comment on fait finalement, comment on se prépare dans les territoires, parce que c'est des vrais bouleversements quand même dans les territoires qui vont accueillir ces chantiers-là, c'est les plus grands chantiers industriels d'Europe, hein, qu'on prépare. Donc il y a du travail, donc je vais plutôt vous parler de ça. Ça va durer, alors comme je ne savais pas non plus combien de temps j'avais, ça va durer le temps que ça va durer. Et puis le reste du temps, je prendrai vos questions, et puis j'essaierai d'y répondre. Du coup, vous aurez compris que même si je suis ingénieur, je ne suis pas du tout technique, je suis surtout loin, enfin je ne suis pas du tout technique, si, j'ai une forme de technique, mais qui n'est pas celle de la physique nucléaire, et qui n'est pas beaucoup celle non plus que vous pratiquez dans les usines de Framatome. Donc, allez pas trop sur ces questions-là, parce que je ne saurais pas beaucoup vous répondre. Je devais intervenir ce soir avec un collègue de Framatome, le directeur du projet EPR2 à Framatome, mais il s'excuse, il avait un problème de garde d'enfant. Il n'a pas pu venir, mais il se propose de revenir faire un cycle plus dédié, pour le coup, à l'activité de Framatome. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter, pour le coup, sur l'activité de Framatome pour le projet EPR2. Et en ce moment, en plus, il y a plein de décisions très intéressantes à raconter, donc je pense que le mieux sera peut-être qu'il revienne, parce qu'il m'a donné quelques éléments, mais je ne suis pas là pour vous lire des... Voilà. Bon, j'y vais, et puis si vraiment, s'il y a des parties qui ne vous intéressent pas, vous me dites on passe, et puis s'il y a des choses que vous voulez que je creuse, dans la limite de mes compétences, j'essaie. Alors, j'ai quand même mis 3 mots du contexte énergétique, du pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on relance ces projets nouveaux nucléaires. Je sais bien que vous n'êtes sans doute pas les publics les moins avertis sur ces enjeux énergétiques, mais ça fait quand même du bien de se remettre les grandes idées en place du pourquoi aujourd'hui, pourquoi est-ce que finalement on est à la croisée, à ce tournant si important des décisions qu'il faut qu'on prenne pour préparer l'avenir énergétique du pays. Je vous parlerai un peu du réacteur EPR2, parce que je ne suis pas technique, mais il y a quand même quelques petites choses qu'il faut qu'on se dise pour bien comprendre comment il a été conçu et quelles sont ses différences par rapport à l'EPR. Quelques mots du programme au sens, finalement, pourquoi pas un seul nouveau réacteur EPR2 comme à Flamanville, mais bien un programme industriel de grande ampleur. Quelques mots de la filière, parce que je savais quand même que je venais vous voir et que c'est un projet qui concerne toute la filière, et donc comment est-ce qu'on embarque l'ensemble de la filière avec nous. Et puis l'actualité des projets, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça va, il n'y a pas un Larsen, vous n'êtes pas trop gêné par un sifflement, non, ça va? Parfait, vous me faites des signes si ça ne va pas. Au fond, si vous ne m'entendez pas, c'est pareil, vous me dites. Alors, juste une grande métrique, enfin une cible majeure qui gouverne à peu près toutes les grandes décisions en matière de politique énergétique aujourd'hui, c'est la stratégie nationale bas carbone qui fixe l'ambition pour la France d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2050. Donc ça, c'est vraiment le cap que s'est donné l'État. Et partant de là, il a fait travailler notamment beaucoup RTE sur comment est-ce qu'on fait pour arriver de façon plus ou moins réaliste selon les scénarios, mais comment on fait pour atteindre une neutralité carbone à l'horizon 2050, alors qu'aujourd'hui, vous le savez sûrement, il y a une part très importante de l'énergie en France qui est encore carbonée, puisqu'il n'y a pas du tout que l'électricité dans la consommation d'énergie en France. Il y a une très très grande part qui est fossile, les carburants notamment. Il y a tout un tas d'usages qui sont encore très carbonés. Donc pour atteindre la neutralité carbone, il y a deux grandes pistes. D'abord, on va réduire considérablement nos consommations d'énergie. On doit réduire considérablement les consommations d'énergie. Donc c'est ce que vous voyez quand vous voyez que les camemberts décroissent notablement. C'est qu'en fait, on réduit énormément la consommation d'énergie. On vise de la réduire, de la diviser par deux, hein, toutes les énergies, les carburants, pas que l'électricité. Mais par contre, en fait, pour atteindre la neutralité, à la fois on divise la consommation d'énergie globale par deux, à la fois il faut augmenter drastiquement la part de l'électricité dans cette énergie totale. Parce qu'en fait, l'électricité décarbonée, dont l'électricité nucléaire, est une des façons de transformer des usages qui sont aujourd'hui fossiles en usages décarbonés. Si je prends l'exemple le plus évident, c'est celui de la voiture électrique, qui remplace une consommation qui est aujourd'hui fossile. Mais par contre, ok, vous consommez plus de fossiles, mais vous consommez plus d'électricité, et il va bien falloir la produire quelque part. Donc la stratégie, c'est ça, c'est de dire on fait des économies et on remplace, et tout ce qu'on peut électrifier, on l'électrifie. Donc ça nous conduit quand même à avoir une augmentation forte de la consommation d'électricité et donc de la production d'électricité. Il ne vous a sans doute pas échappé que l'hiver dernier, on a été en difficulté assez forte sur la quantité d'électricité disponible dans le pays. Il y avait une conjoncture très particulière. On est aujourd'hui en tension sur la capacité électrique, la capacité installée pour la consommation actuelle. Et on est sur des cibles à 2050, avec une croissance très forte de l'électricité consommée. Donc on est dans une perspective où aujourd'hui on a tout juste assez, en période de crise. Quand ça va bien pour l'instant avec nos réacteurs nucléaires, on a de quoi voir venir pour passer l'hiver. Mais à l'horizon 2050, il faut augmenter les capacités installées. Or, on est sur un parc nucléaire qui commence à avoir quelques années pour certaines de nos installations les plus anciennes. Donc on sait que d'ici 2050, il va falloir commencer à préparer l'arrêt d'un certain nombre de réacteurs. On travaille au maximum à les prolonger le plus possible. On espère pouvoir les prolonger, y compris jusqu'à 80 ans si la sûreté le permet. Néanmoins, vous voyez bien qu'on est sur des installations qui, un jour ou l'autre, il faudra être capable de les remplacer, et en même temps, on voit arriver des besoins qui sont de plus en plus importants. D'où la nécessité de prendre les choses en main, de prendre des décisions politiques un peu majeures, et de se donner une trajectoire de construction de nouveaux moyens de production qui soit à la hauteur des chiffres qu'on a vus juste avant. Alors, notamment dans les grands moments fondateurs sur la politique énergétique, vous savez ou vous ne savez pas que la politique énergétique, elle est révisée tous les 5 ans en France au travers de ce qu'on appelle un décret de programmation pluriannuel de l'énergie. Ça, c'est le cadre. L'État prend une loi, puis un décret dans lequel il décline la trajectoire plutôt moyen terme, court et moyen terme. Et puis il y a eu une déclaration et un discours extrêmement important en matière de politique énergétique. C'était un discours qui a été fait à Belfort par le président de la République en 2022, dans lequel il a redonné son intention, son souhait de voir construits trois paires de PR2, et puis dans lequel il a ouvert la possibilité à des études pour la construction de 8 EPR2 supplémentaires. Donc ce discours, pour nous, il marque quand même un tournant important, parce que même s'il y avait eu des intentions pas très longtemps avant, le même président avait quand même fermé deux réacteurs qui fonctionnaient très bien. Donc c'était important pour nous qu'il y ait enfin des orientations pour l'avenir qui soient prises, des orientations claires. Ce discours, il était clair. Et il nous a permis de démarrer un certain nombre de choses. C'était un signal dont on avait besoin pour pouvoir enclencher tout le travail, notamment le travail de préparation de Penly et notamment le débat public de Penly dont vous avez parlé, Antoine Ménager. Voilà. Depuis, il y a eu un certain nombre de signaux. On a changé de monde. Hein. Moi, je travaille au projet EPR2 depuis 2019. Le discours de Belfort, c'est un moment où on a changé de monde dans lequel on évoluait. C'est-à-dire que avant, au sein d'EDF, honnêtement, au projet EPR2, nous, on y croyait, parce qu'on ne peut pas... ça demande de mettre toutes ses tripes, un projet comme ça. Mais tout le monde n'y croyait pas. Je pense sincèrement qu'on était un peu regardé. OK, bon, il s'agit de beaucoup, mais est-ce que vraiment il se passera quelque chose? À ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe où tout le monde, d'un coup, tout le monde nous suit. C'est-à-dire que et la filière se met en marche derrière nous. Même au sein d'EDF, on sent que les esprits changent. Et puis l'État, surtout, se met en marche. C'est-à-dire qu'après ça, l'État a créé une délégation interministérielle au nouveau nucléaire. Donc ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais l'État a nommé Joël Barre, donc, qui rapporte directement à Elisabeth Borne, hein, qui a une équipe de 8-10 personnes, là, de hauts fonctionnaires absolument brillants, et qui sont là pour... finalement nous aider. Donc ils font l'interface entre tous les ministères et tous les services de l'État pour faire avancer le programme nouveau nucléaire. C'est une sacrée machine qui fonctionne assez bien et c'est relativement efficace pour moi qui suis franchement très en prise avec l'État. C'est quand même un outil très efficace et c'est surtout ça montre l'investissement que l'État a mis tout à coup dans le lancement de ce programme nucléaire. Il y a eu un autre événement très important, alors surtout pour le pair meeting. Cette année, l'État a pris une loi d'accélération du nucléaire. Donc en fait, cette loi, elle vient simplifier toutes les procédures administratives, tout ce que doit faire le pair meeting avant que les travaux puissent commencer. Elle est venue ordonnancer, simplifier un certain nombre de choses pour qu'on puisse démarrer la construction au plus vite. Et puis, il y a eu un dernier événement, on en reparlera tout à l'heure. Cet été, il y a eu un conseil de politique nucléaire qui a entériné le choix de budget pour le troisième site. Parce qu'on est effectivement maintenant régi tous les 6 mois par des conseils de politique nucléaire qui sont présidés par Emmanuel Macron, hein, et qui décident de toutes les grandes orientations en matière de nucléaire. Donc là, on est en train de préparer le prochain qui aura lieu en décembre ou en janvier. Alors, quelques mots du réacteur EPR2. L'EPR2, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que c'est d'abord un EPR. Donc c'est un EPR avec tous les atouts de l'EPR, à savoir un réacteur de très forte puissance, hein, il fait 1670 MW électriques. Deux EPR2, c'est 40% de la consommation d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour fixer les idées. Donc ce réacteur, il est d'abord un EPR parce que c'est un réacteur de troisième génération qui reprend toutes les exigences de sûreté de la troisième génération, donc tous les requis les plus élevés du monde en matière de sûreté, en matière de performance environnementale. C'est aussi un EPR dans le sens où il est capable de s'insérer dans un mix déjà très imprégné d'énergie renouvelable intermittente. C'est un réacteur qui peut moduler vite sa puissance en fait. Il y a une tempête ou un coup de vent et que les éoliennes tournent beaucoup, l'EPR il est capable de baisser assez vite sa charge sur le réseau pour laisser la place à l'énergie intermittente éolienne. Et puis l'EPR2, c'est un réacteur qui intègre dès sa conception le réchauffement climatique, puisqu'on sait qu'il devra tourner jusqu'à la fin du siècle. C'est un réacteur du 21e siècle qui intègre les effets du changement climatique. C'est aussi un réacteur qui a été optimisé par rapport à l'EPR, par rapport à la filière EPR. puisqu'on a rencontré des vraies difficultés de construction, on ne peut pas le nier, sur Flamanville et en Finlande. Un peu moins en Chine, mais néanmoins, c'est un réacteur qui est difficile à construire. Il est difficile à construire parce que c'est un réacteur qui a été conçu au départ pour faire un modèle franco-allemand. Il faut quand même s'en souvenir. Au départ, on voulait intégrer des éléments du modèle convoy allemand, hein, donc c'est ça qui a rendu les choses difficiles en partie. Aujourd'hui, le PR2, une de ses vocations, c'est de chercher notamment à le refranciser. Il y a eu beaucoup d'éléments de la partie allemande qui avaient été intégrés dans le PR2 qui sont supprimés. Je vous ai mis quelques éléments. Ah non, c'est pas sur ce slide-là. Voilà, on retrouve ce que j'ai dû vous dire à peu près. Je vous ai mis les éléments juste après sur les leviers d'optimisation. En fait, alors évidemment, on a intégré beaucoup le retour d'expérience sur comment le construire mieux. On a travaillé beaucoup plus en amont avec les fournisseurs et avec les constructeurs. Donc ça fait des années qu'avec nous, les constructeurs, les gens de Bouygues, les gens d'Eiffage, les gens de Vinci travaillent avec nous à la conception et à la conception du chantier. C'est un réacteur, on est aujourd'hui beaucoup plus mature. Je discutais hier avec un collègue qui était au début du lancement du projet de l'EPR de Flamanville, qui disait qu'au moment où on a lancé Flamanville, dans les équipes de conception, ils étaient une poignée. Donc on lance la construction, ils sont une poignée à travailler, on en est encore à faire des schémas de principe, mais on est déjà en train de commencer à construire. Donc forcément, on avance plus vite que la musique, et puis après on défait. Là aujourd'hui, pour vous donner une comparaison, on est 2000 à travailler, il y a 2000 ingénieurs qui travaillent à la conception tous les jours de l'EPR2, alors qu'on n'a pas commencé à construire. Donc on a un niveau de maturité qui n'a rien à voir. On a beaucoup simplifié le design, on a énormément standardisé les équipements. Il y a un chiffre qui est toujours fou, mais sur Flamanville, on a 300 modèles de portes. De portes différentes. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc là, on est revenu à un nombre extrêmement réduit, parce qu'en fait, une porte, ça a une fonction qui est souvent la même, hein, qui est de pouvoir passer entre deux murs. Donc, et en fait, en acheter toujours la même porte, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus simple de construire toujours le même. Et en fait, ça paraît fou, mais c'est des choses comme ça qu'on a corrigées. Les modèles de robinet, les modèles de vannes, etc. On est revenu sur un nombre beaucoup plus restreint et sur des modèles qui sont disponibles sur catalogue. C'est-à-dire qu'on ne fait pas construire, parce qu'en plus, il y a des portes qu'on a fait concevoir sur mesure qui ne marchent que pour le PR de Flamanville, quoi. Donc l'idée, c'est plutôt de trouver des portes, je vais caricaturer, mais chez le roi Merlin, quoi. Voilà, donc on a beaucoup travaillé à ça. On va faire beaucoup plus de préfabrication en usine, donc beaucoup moins de soudure sur site. Les soudures seront faites avec des matériels qui vont arriver soudés. On a également sur le site et aux abords du site, on prévoit des terrasses de préfabrication pour faciliter énormément les montages qui étaient parfois compliqués quand on les faisait directement dans les bâtiments. On a beaucoup adapté les organisations. Alors ça, l'adaptation de l'organisation, c'est beaucoup les enseignements du rapport FOLS. Jean-Martin Fols, hein, qui avait fait à la demande de Jean-Bernard Lévy un audit des conséquences, des causes, des difficultés de Flamanville, et qui a beaucoup regardé le sujet organisationnel, et qui a donné beaucoup de conseils, et de ça est venue surtout la nécessité qu'on ait en fait un contrôle interne au sein d'EDF, que ce ne soit pas EDF qui rende des comptes, qui ne rendent pas vraiment de compte en fait. Donc on a maintenant une organisation interne avec ce qu'on appelle un maître d'ouvrage interne qui est le client du projet et qui s'assure qu'on respecte nos engagements et qu'on avance comme on a dit qu'on avancerait. Et en plus, maintenant, on a la supervision de la maîtrise d'ouvrage par la délégation interministérielle. Ne vous inquiétez pas, on est vraiment, vraiment très contrôlé. Et on a évidemment, c'est la partie que vous avez en haut à droite, on a évidemment énormément travaillé sur l'outil numérique. On est plus de 20 ans plus tard, et donc on est dans une ère complètement différente. On a le modèle de la construction en ce qu'on appelle en 4 dimensions, donc à n'importe quel moment entre le démarrage des travaux et la mise en service, on sait vous dire à l'heure près où est-ce qu'on doit en être entre celui qui doit venir faire une soudure et celui qui doit passer les câbles électriques. Donc tout ça est évidemment beaucoup plus optimisé puisqu'on est capable de mieux repérer à quel moment ça ne va pas marcher s'ils sont tous les deux au même endroit au même moment. Donc ça, c'était notablement amélioré et ça fonctionne déjà très bien sur la construction d'Hinkley Point en Angleterre. On a déjà beaucoup recours au numérique et c'est quand même extrêmement efficace. Alors un mot du programme. Je vous ai dit que vous saviez forcément les trois sites, mais vous ne savez peut-être pas les trois sites qui sont retenus. Ces trois sites, donc les deux premiers, c'est en Normandie, c'est en bord de mer, pardon. Donc le premier en Normandie, à Penly. Donc Penly, c'est près de Dieppe, hein, dans la Seine-Maritime. Le second à Gravelines, dans les Hauts-de-France. Et le troisième, du coup, a été choisi cet été seulement, et c'est le site de Bugey, puisqu'au départ, nous, on avait remis une offre à l'État où on proposait Bugey ou Tricastin. Le choix des sites, ça a été, c'est aussi quelque chose qui est fait par la direction permitting. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait partie des choses à l'amont qu'on prépare aussi. Donc on travaille aussi pour les sites de l'extension. Si jamais il y avait quatre autres paires de PR2 qui étaient faites, on est aussi en train de travailler à ça. On a regardé beaucoup de critères techniques. Alors il y a une méthode qui est proposée par l'AIEA pour sélectionner un bon site. Donc on a travaillé avec ce type de grille de sélection. Et puis nous, c'est des sites qu'on connaît. Hein, on a regardé que des sites sur lesquels on a déjà des CNPE en exploitation. Donc c'est des sites qu'on connaît parfaitement avec leurs atouts et leurs défauts. Il n'y a aucun site parfait. Ce serait trop facile. Mais néanmoins, c'est déjà tous des sites qui accueillent des centrales nucléaires. Donc ils sont quand même déjà avec beaucoup d'atouts. Hein. Pour la petite histoire, on a redéterré les archives. À l'époque de la construction du parc actuel, on avait quand même investigué et fait des travaux assez poussés, hein, de choix de sites, sur 120 sites différents en France. Donc on a déjà quand même sélectionné plutôt les bons sites. Et donc maintenant, on choisit les meilleurs des meilleurs, en tout cas ceux qui remplissent les meilleurs critères au bon moment. C'est notamment le cas de Bugey, en fait. Hein. Bugey, il est en opportunité pour aller vite et pour être capable de faire le troisième site. C'est plus facile pour nous de le faire à Bugey. Tricastin reste un excellent site et si on a la chance de poursuivre ce programme, j'espère que Tricastin sera un de ces sites-là. Néanmoins, on était moins prêts, en fait. On était moins matures techniquement et donc il y a aussi un choix d'opportunité qui se fait. Il y a évidemment un sujet de réseau. Il faut que le réseau de transport puisse accepter des nouvelles unités parce qu'on amène quand même des très gros objets très puissants, donc il faut quand même que le réseau puisse prendre ce besoin-là. Et puis, il y a un sujet de besoin aussi. Typiquement, il y a quand même des zones, et Dunkerque en fait partie, qui sont extrêmement consommatrices d'électricité de par la présence de gros industriels. Voilà. Et puis, il y a un point qui a été essentiel dans les choix des sites, c'est la mobilisation, en fait. On n'est pas allé sur des sites où on n'était pas attendu. Les territoires qui ont été retenus, c'est des territoires où les présidents de région, les maires, les présidents des EPCI locaux ont fait une candidature, ont fait savoir qu'ils voulaient accueillir un projet EPR2 et se sont montrés volontaires depuis des années. Parce que c'est clair que ce n'est pas des projets qu'on peut lancer si on n'a pas tous les niveaux politiques locaux qui ont envie d'y aller. Parce qu'en fait, c'est quand même c'est des projets fantastiques, c'est des projets pourvoyeurs de beaucoup d'emplois, de beaucoup d'argent aussi, hein, en termes de retombées économiques, mais c'est des projets qui bouleversent quand même un territoire. On verra, hein, c'est quand même 8000 personnes qui viennent travailler, c'est une petite ville à construire en fait. Hein. Donc il faut absolument que tous les niveaux politiques soient très engagés et très en faveur de l'accueil d'un projet comme ça pour mettre tout simplement l'énergie dans le moteur, hein, pour bouger les lignes et faire en sorte que ce soit possible. Alors un petit mot de planning. Je vais boire une petite goutte d'eau, parce que sinon je vais finir par... Vous allez finir par plus m'entendre. Pardon. Un petit mot de planning. Vous voyez pour Penly, c'est celui du haut. Donc, on a remis là le débat public. C'est au moment où Antoine Ménager vous a parlé. C'était à l'automne dernier. Ça fait même pas... Ça fait un an, ça y est. Il y a un an, on y était. Donc on a déposé, en fait, à l'issue de ce débat, il s'est terminé fin février. Après, il y a un processus, la commission du débat remet ses conclusions. Et ensuite, nous, on peut déposer nos demandes d'autorisation administrative. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à l'été. Là, aujourd'hui, on est dans la phase qui suit. Donc on a déposé nos demandes. Et on est dans la phase où l'administration est en train d'instruire tout ça. Donc On a beaucoup d'échanges avec... on a évidemment plein de dossiers. Je vous ai dit qu'ils ont fait une loi pour simplifier, mais ça reste des objets importants à construire, un peu compliqués. Donc on a quand même beaucoup... On a déposé... J'ai plus l'ordre de grandeur, mais je crois qu'on a déposé 20 000 pages de dossiers quand même, de demandes d'autorisation auprès de l'État et des préfets, etc. Donc on est en train de regarder ça avec eux. On espère avoir l'autorisation de démarrer les travaux en juillet prochain. Donc malgré tout, ça va vite. Parce que en fait, du coup, on va un an entre le dépôt et l'autorisation de démarrer les premiers travaux. C'est assez performant quand même, vu les 20 000 pages. Donc on démarre les travaux a priori en 2024. Et puis après, on suit une construction qui est relativement longue, puisqu'il faut 12 à 13 ans pour construire nos objets. Alors sur chaque site, on a des travaux préparatoires qui sont plus ou moins complexes, mais chaque site a ses spécificités. J'ai dit qu'il n'y en avait aucun de parfait. À Penly, on a un sujet de... Penly, c'est en bas d'une falaise. Je ne sais pas si vous visualisez les falaises normandes, les Trotta. À Penly, c'est en bas, c'est en pied d'une falaise en bord de mer. Et en fait, on manque un peu de place. Déjà à l'époque, quand on avait construit les deux premières unités de Penly, on avait dû remodeler un peu la falaise et s'étendre un peu sur la mer pour poser nos unités. Et là, en fait, le PR2, il est plus gros que les unités de 1300 qui sont sur le site, parce que c'est plus puissant, mais c'est plus gros. Et donc, en fait, on doit remodeler encore un peu la falaise. Donc, on a quand même des travaux assez conséquents. On va déroqueter 5 millions de mètres cubes de falaise pour commencer et tendre à faire une plateforme de 20 hectares sur la mer. Donc, on a des travaux préparatoires un peu conséquents. Alors, à Gravelines, on va rentrer en débat public, on l'espère... l'an prochain, donc au deuxième semestre. C'est pour ça qu'Antoine Ménager vous a dit qu'il était un peu occupé, c'est qu'effectivement il est en plein dans la préparation du débat public de Gravelines. On espère démarrer les travaux, on n'a pas mis la date là, mais on espère obtenir l'autorisation courant 2026. Alors Gravelines, c'est un tout autre défi technique. Là, le sujet, c'est que les sols sont très très mous. Donc à Gravelines, il faut faire des fondations spéciales très très particulières parce que les sols sont extrêmes. En gros, on construit sur du sable, quoi. Donc on a besoin de faire des fondations. On a fait appel aux meilleurs experts de France et du monde pour challenger la façon dont on va faire nos fondations à Gravelines, et c'est ça qui va nous prendre du temps. Et puis à Bugey, on compte débattre. Vous voyez, ça s'accélère. Alors ça s'accélère pour deux raisons. Ça s'accélère parce que de toute façon... vous voyez, en fait, on essaye d'accélérer les mises en service pour permettre éventuellement, si après il devait y avoir 4 paires supplémentaires, pour permettre d'aller jusqu'en 2050 et d'avoir mis en service du coup les 14 d'ici 2050. Donc il y a ce besoin d'accélération et il y a ce besoin de démarrer de plus en plus tôt parce qu'en fait, c'est de plus en plus compliqué. Donc on a quand même commencé par le site le plus facile et les travaux préparatoires vont être de plus en plus compliqués, donc de plus en plus longs. Donc les séquences de construction, on va apprendre, et plus on va apprendre, plus on va construire efficacement, plus on va construire vite. Mais par contre, on a des travaux préparatoires qui sont à chaque fois plus compliqués, qui eux vont être plus longs. Donc en fait, on se retrouve avec des constructions qui sont globalement de plus en plus longues. À Bugey, la spécificité, c'est là aussi un problème de sol, enfin, c'est un sujet de sol, où là on a une énorme substitution à faire. En fait, sous nos pieds, on a d'abord de l'argile, qui est complètement défavorable pour poser des gros EPR. Et donc, en fait, on va enlever l'argile et on va la remplacer par des sols de meilleure qualité, mais sur des volumes absolument énormes. Donc, c'est aussi des travaux très conséquents. C'est tout bête, hein, c'est juste du jeu de... Mais il faut quand même le faire. Voilà, donc là, vous avez les grandes échéances. Tout ça est soumis à du conditionnel parce qu'il y a plein d'étapes qui relèvent aussi de décisions de l'État. Et donc... il faut que tout le monde travaille dans le même sens, mais en tout cas, c'est ça le planning prévisionnel. Une chose que j'ai peut-être pas beaucoup dite sur la façon de travailler et pourquoi est-ce qu'on a proposé 3 paires, alors au-delà du fait que ça correspond, c'est un minimum pas du tout suffisant pour répondre à tous les besoins énergétiques dont j'ai parlé en introduction, mais c'est surtout que un des grands enseignements de Flamanville, c'est qu'en fait, un seul réacteur, tout seul, au milieu de 20 ans après avoir fait le dernier palier et 20 ans avant de faire le suivant, en fait, c'est vraiment pas un procédé industriel. Flamanville tout seul, c'est un réacteur presque expérimental, enfin au sens... on n'a pas lancé une industrie, on n'a pas lancé une filière qui recompose ses compétences, qui mise sur l'avenir parce qu'il y a un avenir, qui recrute des gens parce qu'ils vont avoir du travail sur X années, etc. Et donc ça, c'est un des grands enseignements, c'est qu'en fait, il faut... Mais bon, c'est un principe de base d'industriel, et pour le coup, dans un territoire d'industrie, je sais que ça vous parle, mais en fait, c'est tout bête, c'est l'idée de construire en série. C'est l'idée de construire par paire, qui avait quand même très très bien marché sur la construction du parc historique. On va se demander pourquoi on n'y a pas pensé. Mais oui, je sais bien, je sais bien. Bon, voilà. Mais donc on a en fait ressorti les vieilles recettes qui avaient si bien marché. Et donné, on a écouté la filière beaucoup, hein, qui nous a dit que, mais qu'il fallait donner de la visibilité si on voulait qu'il y ait un vrai investissement, si on voulait qu'il y ait une vraie reconquête de la compétence. Et puis qu'on recrée, là, on est en train de recréer des carrières, hein, parce que si vous regardez, les gens qui vont se former, qui vont commencer à travailler sur les premiers chantiers, ils ont quand même du travail pour un nombre assez conséquent d'années, et encore plus si on doit construire les 4 paires supplémentaires. Et tout ça dans un esprit où évidemment, mais comme pour le parc actuel, hein, je ne sais pas si vous êtes familier du parc nucléaire actuel, mais on a vraiment travaillé par palier, et quand on déroulait un palier, c'est vraiment rigoureusement le même, sur tous les sites du même palier. C'est extrêmement pratique à construire parce que du coup, on refait exactement les mêmes gestes, on reprend exactement les mêmes matériels. Et puis, c'est extrêmement pratique à exploiter parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Hein. Quand on fait une modification, quand on remplace un composant sur une des tranches du palier quelque part en France, on la déroule sur l'ensemble du palier immédiatement avec la même procédure, avec la même... On réplique l'ensemble. Là, c'est exactement la même chose, c'est un principe de réplication maximale. On garde le modèle et on le réplique autant qu'on peut sur les 3 sites, voire sur les suivants. Alors, ce qui fait qu'en termes de conception, on est obligé de prendre le scénario du pire pour être robuste à tous les sites. Donc, en termes de réchauffement climatique, on a conçu finalement Penly est capable de passer le réchauffement climatique de Bugey, même de Tricastin, parce qu'à l'époque, on ne savait pas si ce serait Bugey ou Tricastin. En termes de sûreté, on est obligé de considérer les mêmes niveaux de risque pour que le modèle soit entièrement générique. Donc on est conçu sur le scénario du pire des 3 sites qu'on a considérés. Alors un mot sur la filière et sur les retombées en termes d'emploi. Ça c'est une courbe qu'on a faite il y a 2019-2020 au démarrage pour se rendre compte en fait de... Qu'est-ce que ça générait en termes d'activité économique et surtout combien de compétences il allait falloir aller chercher. Parce que s'il y a un défi majeur pour ce programme industriel, c'est le défi des compétences. Extrêmement ambitieux. Aujourd'hui, vous voyez les appels d'emploi. Donc, vous avez les 3 couleurs. Les 3 couleurs, c'est le bleu, c'est ce qu'on appelle les emplois directs. Donc, c'est les emplois EDF. Et chez nos sous-traitants de rang 1, donc les grands majors, vont travailler pour nous, EDF, Framatome, Advance et les grands majors qui vont travailler pour nous, la grosse société de travaux publics, etc. Les verts, c'est les indirects, donc c'est les rangs 2 et plus, donc les sous-traitants de toutes ces entreprises. Et puis après, vous avez le orange, c'est ce qu'on appelle les emplois induits. C'est le fait que quand on va arriver dans les villes, là, qu'on va arriver, nous, avec 8000 salariés, il va falloir des maîtresses d'école, des boulangers, etc. Et donc, quand on cumule tout ça, vous voyez que pendant les 10 années de construction, là, on est à plus de 40 000 emplois mobilisés en France. Et on se rend compte qu'en plus, économiquement, c'est des projets qui mobilisent essentiellement la filière française. Et donc, en fait, chaque euro investi, quasiment, va en direct dans l'économie française sur ces projets-là. Et vous voyez qu'en moyenne, puisque là, on se projette sur le siècle, là, on va jusqu'au démantèlement. Et en fait, en moyenne, sur l'ensemble, on mobilise 14 000 emplois par an. Donc c'est énorme. C'est énorme dans les deux sens. Alors c'est très positif parce que c'est un vrai projet de nation, c'est un projet de réindustrialisation, c'est un projet de filière, ça c'est certain. Mais c'est aussi un projet industriel et il faut réussir à attirer les jeunes dans nos filières industrielles, dans les métiers de la construction. On ne pourra pas se passer de la moitié de l'humanité, effectivement, il va falloir que les femmes y aillent aussi, je suis d'accord. Donc effectivement, on a un vrai défi, et c'est celui qui est le plus compliqué. Parce qu'en fait, on peut décréter tout ce qu'on veut, on peut se le dire, là c'est très bien, mais il y a un vrai défi parce qu'il faut aller en chaque collège, quasiment parler à chaque collégien pour donner le goût de la science, le goût de la technique et le goût de l'industrie. Et donc c'est là qu'il faut, si on ne se démultiplie pas tous en parlant de nos métiers, on n'y arrivera pas. Je crois que j'ai mis quelque chose là-dessus. Alors non, un mot sur le programme Excel, parce que le programme Excel, en plus, pour le coup, il est déployé dans toute la filière, et donc je pense que les gens de Framatome, normalement, connaissent ce vocabulaire. Le programme Excel, c'est quelque chose qui vient directement aussi du rapport de Jean-Martin Foltz, et ça vise finalement à retrouver l'excellence industrielle. À retrouver des principes, l'histoire des portes dont je parlais, ça découle aussi de ça. Donc il y a eu tout un tas de... Il y a eu 5 grands volets et ça a été déployé depuis 2019, ce programme Excel. Aujourd'hui, il est dans la phase de pérennisation. Donc, c'est-à-dire, on considère qu'il est, entre guillemets, terminé, c'est-à-dire qu'on a tout déployé. Il est déployé dans toutes les entreprises de la filière sous l'animation du GIFEN. Et c'est un vrai... on a renoué, je dirais, avec le bon sens industriel. Et c'était Alain Tranzer qui dirigeait ça. Donc Alain Tranzer, il est venu de l'industrie automobile pour prendre la direction de ce programme. Et dans le cadre de la réorganisation qui est en cours dans le groupe EDF, il prend demain au COMEX la responsabilité de toute l'ingénierie nucléaire et de la supply chain. Donc il va pouvoir mettre, maintenant qu'il a posé tous les grands principes, il va être le patron de la mise en œuvre des principes qu'il a posés là. Alors ce slide est beaucoup trop chargé à mon goût, mais il vise juste à vous dire qu'en fait, c'est un projet de filière, c'est ce que je vous ai dit. Ça embarque toutes les entreprises, les groupements d'entreprises, les groupements de sous-traitants. On a mis en place une université des métiers du nucléaire, enfin l'État a mis en place une université des métiers du nucléaire qui, elle, vise à améliorer la cartographie des formations qui sont dispensées. Ils sont en train de mettre en place un module nucléaire pour que dans les lycées, les jeunes puissent prendre une petite spécialité. En fait, l'idée, c'est juste de poser des petites graines. Finalement, je pourrais avoir un métier dans le nucléaire. Pourquoi pas ? En fait, c'est un métier d'avenir. Il faut rééduquer les parents, il faut rééduquer les profs, il faut rééduquer les étudiants et les jeunes. Donc, il faut distiller ça dans toutes les couches, je dirais. Donc, on mobilise tout le monde. On travaille beaucoup avec l'éducation nationale, beaucoup avec les régions qui sont maintenant à la main sur les cartographies de formation, beaucoup avec les organismes de formation continue. Ça, c'est un travail colossal, le sujet des compétences et le fait de préparer en fait les futures compétences de demain. Il est encore temps, mais il est grand temps. Alors, un mot sur la stratégie d'achat. Mais ça, en fait, ça reprend ce que je vous ai déjà dit. Globalement, on a visé la standardisation au maximum et l'efficacité, y compris l'efficacité économique des contrats. Donc, typiquement, on a commandé tout par 6. Plutôt que de commander paire par paire, on a tout commandé par 6, tous les équipements. Y a le seul marché qui n'est pas pour 6, c'est celui du génie civil, qui est très, très spécifique à chaque site. Et donc là, le marché de génie civil, il est passé pour chacun des sites. Sinon, c'est que des contrats programmes. Et après, on reprend tous les principes que je vous ai déjà donnés. Hein, le sujet de l'effet de série, le sujet de... On encourage beaucoup à ce qu'ils recrutent localement, à ce qu'ils s'implantent dans les territoires où on va construire, pour que les retombées, elles bénéficient localement. On fait tout ce qu'on peut, je dirais, dans les limites du droit, parce qu'on est quand même beaucoup soumis... aux droits européens, aux obligations de la concurrence, etc. Alors, il faut surtout me dire si je suis complètement... Oui, ça va. J'avance. Le débat public de Penly. Bah, du coup, vous aviez eu Antoine Ménager, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus que ça, si ce n'est que... Alors, c'était un débat qui a été très nationalisé. Il y avait besoin, je pense, du côté de la commission. Vous savez que c'est quelque chose qui se fait sous l'égide d'une commission nationale du débat public. Et il y a un espèce de fantasme permanent qui est qu'en France, on n'a jamais débattu du nucléaire. C'est complètement faux. Si vous regardez, dans les 20 dernières années, il y a eu au moins 10 grands débats sur le nucléaire, autour des déchets, autour de la politique énergétique. Enfin bref, On débat très souvent du nucléaire en France, mais à chaque fois qu'on fait un débat, on a l'impression que c'est le premier. On verra si sur suite Graveline, on aura encore l'impression que c'est le premier. C'est un exercice très particulier, le débat public. Alors, je vais vous livrer mon impression, c'est assez décevant. Moi, j'y croyais beaucoup. J'avais une espèce de... J'étais animée par ça, en pensant que c'était vraiment utile d'aller au contact, et puis qu'il fallait répondre aux questions, et qu'on ne pouvait pas convaincre tout le monde, c'est jamais l'idée, mais que c'était vraiment intéressant d'aller se nourrir. Moi, j'y croyais beaucoup parce que j'avais très envie. Moi, je m'occupe de l'intégration dans les territoires, donc en fait, je voulais aller au contact du territoire, et puis récupérer les attentes, enrichir le projet. Écoutez, l'agriculteur... qui à l'entrée du site de Penly m'expliquait que il fallait pas passer comme ça la route, mais la passer de l'autre côté parce que c'était pas du tout logique qu'on n'arriverait pas à tourner. Enfin, j'imaginais des, j'avais vraiment projeté un enrichissement par l'expertise d'usage des gens que j'allais rencontrer. Bon, alors ça c'est pas du tout ça le débat public. Hein. C'est un sujet d'initié. On retrouve toujours les mêmes. On se balade de ville en ville en France et puis en fait c'est toujours les mêmes pro-nucléaire et les mêmes anti-nucléaires qui viennent faire le même débat, quel que soit le thème qu'on a, que la CNDP annonce pour la réunion, ils viennent s'échanger les mêmes arguments. Et puis c'est assez stérile en fait, parce que le vrai public vient très peu. Sans doute parce que même quand il vient, il a du mal à avoir la parole, parce que ceux qui sont des grands habitués du débat public, eux, occupent bien la scène parce qu'ils connaissent bien tous les trucs. Donc c'était assez décevant de ce point de vue. À mon sens. Alors, ça, c'est aussi parce que c'est un débat que la CNDP a voulu très national. Donc, on a fait plus de réunions à Paris que de réunions à Penly. On avait beaucoup de thèmes très nationaux, la politique énergétique qui n'est pas faite par EDF. Donc, en fait, on pouvait débattre, mais pour le coup, on n'allait pas beaucoup enrichir notre projet. Bon, voilà. Mais c'est très personnel ce que je vous dis, mais effectivement, j'ai un peu révisé à la baisse mes attentes. Face au vrai débat public. Après, il y a un autre débat public qui n'est pas celui, celui qui est retransmis sur YouTube et qui donne lieu aux publications de la CNDP, mais qui est le vrai contact avec les territoires. Et lui, heureusement, il se fait. On avait commencé avant le débat public, on continue à le faire. Et c'est bien celui-là qui vient enrichir notre projet, et c'est bien l'essentiel. Mais voilà. Alors ça, c'est parce que je vous en ai pas mal parlé déjà. C'est la courbe de charge des gens qui devront intervenir sur le site pour faire le chantier. Donc on a modélisé les emplois dont on aura besoin, et à quel moment, et combien ça représente en fait. Et donc, vous voyez là, c'est celui de Penly, donc on est autour de 7600 emplois mobilisés, on est en train de réviser cette courbe plutôt à la hausse. Et c'est juste que ça nous donne l'ampleur en fait, à la fois l'ampleur du défi en matière de compétences, et puis ça nous donne aussi la priorisation en matière de formation. Ça nous permet de faire notre plan de route, en fait, hein, notre feuille de route sur qui former, quand, qui recruter, etc. Bon, ça souligne juste qu'effectivement, on a devant nous un très très grand défi, à la fois en matière de compétences et puis en matière d'aménagement du territoire. Parce qu'en fait, ça va très vite. Donc là, il n'y a pas les années marquées en bas, c'est une courbe qui était... qui fonctionnait quel que soit le moment où on démarrait le débat public, mais le pic, il est en 2029. Donc vous pouvez placer autour. Ça dit juste qu'en fait, en 2029, voyons, en 2024, dans 5 ans, on aura 8000 personnes sur le site. Et donc dans 5 ans, il faut qu'on ait trouvé les moyens de loger 8000 personnes qui aujourd'hui n'habitent pas sur place, hein, parce que le taux de chômage à Dieppe, il n'est pas aussi bas qu'à Bugey, mais il est autour de 7% aujourd'hui. Et les gens qui sont sans emploi, ils sont très très éloignés de l'emploi. Donc on aura du mal en tout cas à sourcer 100% localement. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de chômage en France. Donc il y a un vrai défi aussi de formation des gens. Alors un mot plus détaillé du calendrier, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à en dire. Cette fameuse étape de travaux préparatoires, c'est celle qui concerne la falaise. Peut-être c'est une photo qui est intéressante. Vous voyez bien du coup la falaise. On voit la falaise naturelle à droite, là, au-dessus de la plage. Et puis après, vous voyez la zone qui est remaniée. C'est la partie existante, c'est les deux réacteurs de droite. Et puis les deux plus gros, là, ce sont les EPR2. Donc, c'est évidemment une projection, on n'en est pas encore là. Et puis vous voyez derrière, du coup, cette falaise là qu'on aura remodelée. Donc on a des travaux de prolongation du chenal à faire. Aujourd'hui, le chenal il était déjà prévu un peu plus long parce que ce site il était déjà prévu pour accueillir 4 réacteurs, mais un peu moins gros que des EPR2. Voilà, en tout cas, ça vous donne une idée de l'ampleur. Et ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que 8000 personnes qui vont travailler, à l'époque où on a construit les deux premières de Penly, il y avait beaucoup moins de 8000 personnes qui travaillaient et ils occupaient l'intégralité de la zone qui est en bas de Falaise. C'était une petite ville qui foisonnait. Et là, évidemment, quand on va construire celle-là, on n'a plus cette zone. Donc on est quand même sur un site qui est exigu. Ça va être un vrai défi. Et on est obligé pour ça d'avoir des activités qui vont se faire plus haut. Donc on aperçoit une terrasse de préfabrication qui nous servira à faire une partie des activités. Et on a même des activités qui se font encore plus haut en haute falaise qu'on ne voit pas ici. Et puis on travaille beaucoup aussi à faire de la préfabrication plus ou moins déportée, donc dans des ateliers qui seront un peu plus loin du site. Alors un mot de Gravelines, donc je vous ai donné un peu les éléments de calendrier. Déjà, je ne sais pas si je vais les recommander, mais vous voyez là aussi les projections des futurs EPR à Gravelines. Donc vous apercevez, hein, là-haut, on voit bien les 6 tranches de Gravelines, du coup, les 6 réacteurs qui sont en enfilade. Et puis, ça peut pointer. Je ne suis pas très familière de tout. Petit bouton rouge. Ah ouais, super, merci. Donc là, vous avez les 6 réacteurs actuellement en exploitation de Gravelines. Des réacteurs de 900 MW. Vous avez le chenal d'amener et le chenal de rejet, là. Et puis là, vous avez les EPR2. Donc là, on est un peu plus loin, hein, du site existant par rapport à Penly. Aujourd'hui, c'est un site qui est occupé par un dépôt pétrolier de Total, qui est en train de vider ses cuves et de les démanteler. Et on va donc s'installer là. Donc on est dans un schéma qui est très, très différent. C'est un milieu qui est beaucoup plus urbain. C'est un milieu qui est beaucoup plus industriel aussi. Hein. La zone de Dunkerque, elle est extrêmement dynamique en matière d'industrie. Donc on a des défis qui sont très différents sur l'aménagement du territoire parce qu'on est vraiment aux portes de la ville de Dunkerque, qui est quand même une très grosse ville. Et on n'est pas du tout loin de Calais. Enfin, donc on est en milieu beaucoup plus urbain et industriel. Donc au plan des compétences, à la fois c'est une chance, à la fois on est en compétition. La zone de Dunkerque, faut réaliser qu'aujourd'hui, il prévoit des investissements industriels à hauteur de 16 milliards d'euros par an dans la décennie qui vient. C'est des milliers d'emplois industriels aussi. Donc on va pouvoir bénéficier d'une dynamique, mais on va aussi avoir une forte concurrence en fait, hein, sur les compétences qui sont très recherchées. Mais du coup, on est dans une zone qui est beaucoup plus aménagée. Donc on a moins la difficulté qu'on peut avoir à Penly et qui est liée à la ruralité. Parce qu'à Penly, on s'installe quand même dans une zone qui est extrêmement rural. Quoi. Donc c'est pas du tout les mêmes difficultés, c'est pas les mêmes défis, mais c'est ce qui fait qu'on s'ennuie pas, hein, parce que sinon on sait pas à quoi on servirait. C'est la même courbe que tout à l'heure, elle a pas la même tête, mais c'est celle de Gravelines qui vous montre le pic à 8000 salariés. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle insiste sur quelque chose. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler. Vous savez qu'il y a le grand sujet des soudures, et donc on a beaucoup réinvesti dans la formation des soudeurs. On entend beaucoup parler de ces métiers-là. Le parc industriel d'EDF étant en train de faire ses grands investissements pour son maintien en forme, fait aussi beaucoup appel au métier de la maintenance. Et donc on est vraiment dans des métiers là qui sont de la métallurgie, qui sont des métiers industriels de maintenance de pointe. Et en fait, la construction des EPR, c'est avant toute chose des métiers de la construction. C'est du béton. C'est d'abord des terrassiers et après c'est du béton, c'est des maçons coffreurs, c'est des ferrailleurs. Et en fait, ça, il ne faut vraiment pas le perdre de vue parce que c'est très clinquant. Là, il y a beaucoup de régions qui offrent des formations robinettiers. Et c'est super parce qu'on aura besoin de robinettiers, mais tout au début, on a surtout besoin de constructeurs et de bâtisseurs. Et c'est pareil, nos jeunes, dans les métiers pas attractifs après l'industrie, il doit y avoir la construction, ou je ne sais pas dans quel sens. En tout cas, il faut vraiment aussi plaider pour les métiers de la construction d'abord, parce qu'en fait, le premier défi est là. Et c'est des métiers qui sont assez peu teintés nucléaires, en fait. Hein. Il faut qu'ils soient bons. On va les former pour la spécificité du nucléaire, pour faire du béton, mais avant tout, il faut savoir faire du béton. Quoi. Et puis le site de Bugey, du coup, donc le petit dernier qui a été décidé cet été. Voilà, on a repris juste la phrase de sortie du Conseil de politique nucléaire. Alors là, je ne sais pas si on ne voit pas très bien sur ce slide. Ici, vous avez la centrale actuelle. Donc la centrale de Bugey, elle porte en son sein toute l'histoire du nucléaire français. Il y a un vieux réacteur en démantèlement maintenant de la filière, la première filière française graphite-gaz. Il y a une installation de gestion de déchets sur le site de Bugey. Et puis, il y a quatre réacteurs de 900 MW en fonctionnement. Et elle est même tellement diversifiée, cette centrale, qu'elle porte en plus sur les réacteurs en fonctionnement. Il y en a deux qui sont en circuit dit ouvert, donc ceux qui prennent directement l'eau du Rhône, qui l'utilisent juste, qui la réchauffent au passage et qui la rejettent telle qu'elle. Et deux réacteurs qui sont sur aéro-réfrigérant, donc qui refroidissent au moyen de l'air et pas au moyen de l'eau. Elle porte vraiment tout ce site, donc c'était le sens de l'histoire qu'elle porte aussi le nouveau nucléaire. Et ce sera le cas. Et ce sera le cas du coup ici. Donc on est quand même à Laval, hein. Le Rhône coule comme ça. On est franchement à Laval parce qu'il y a au moins 2 km entre les deux implantations. Et alors pourquoi 2 km? En fait, c'est une spécificité géologique. On est retourné chercher des conditions géologiques les mêmes que celles de la centrale actuelle. C'est très particulier en fait, mais il y a ce qu'on appelle des dômes de Molas. Donc, alors moi je suis géologue, ça me parle, mais ça vous parle peut-être pas. C'est une formation géologique qui est plus dure, qui permet d'accueillir les fondations de façon solide pour nos réacteurs. Et il se trouve que c'est très inégal, et entre les deux, en fait, on aurait été obligé de creuser beaucoup trop profond pour aller trouver cette molasse. Le site de Bugey, il est évidemment, le Rhône est évidemment un fleuve assez formidable pour nos objets, parce qu'il y a un débit colossal qui n'est pas menacé, y compris d'ailleurs à l'horizon de la fin du siècle. Sur le transport, sur le réseau de transport, évidemment, le site est aux portes de tout le sud-est, qui est si gourmand en énergie et si peu producteur. Plus on descend dans le sud, moins il y a de production d'énergie. Donc pour ça, il est extrêmement bien placé. Et puis, le site de Bugey, un peu comme Dunkerque, bénéficie d'un environnement industriel extrêmement dynamique. Donc on est aussi beaucoup moins inquiet, je dirais, sur la capacité du tissu local à fournir. Le site vient de terminer ce qu'on appelle le grand carénage, donc toutes les révisions qui ont permis de poursuivre son exploitation au-delà de 40 ans. Et il a passé sans difficulté ce pic de charge qui fait quand même appel à 4000 personnes, hein, 4000 personnes jour qui viennent travailler pendant le grand carénage. Donc c'est un début, c'est la moitié, je dirais, de ce dont on a besoin, mais c'est de très bon augure pour la suite. Le planning dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui vous redonne juste les grandes échéances, je ne redétaille pas. Ce qui est devant nous à court terme, juste après celui de Gravelines, on va enchaîner le débat public de Bugey. Ça va être au premier semestre 2025, vous voyez. Il sera important, je ne l'ai pas dit encore pour celui de Gravelines, mais du coup je vais le dire là, il sera important que tout le monde se mobilise. On a besoin que le vrai public vienne s'exprimer. On a besoin que les gens, et pas que les antinucléaires, s'expriment dans ces débats. Parce que souvent, il y a plus de gens qui aiment râler que de gens qui viennent juste dire « moi, je suis pour ». Donc en fait, il faut s'équilibrer, il faut que tout le monde puisse s'exprimer, mais donc on a aussi besoin des soutiens. Il y a plein de façons de participer à un débat. On n'est pas obligé d'aller dans les réunions un peu pénibles dont j'ai parlé, parce que je ne voulais pas super bien vendu. Mais on peut mettre un avis sur Internet, on peut faire un cahier d'acteurs. La Sven, évidemment, a fait un cahier d'acteurs. Hein, donc, voilà, il y a plein de façons de participer, mais ce sera important de se mobiliser. Voilà, je suis arrivée.
Bien, merci, c'était très intéressant. Et surtout, c'est un domaine qu'on expose peu, puisque ici, il y a surtout des techniciens. Et donc, on aime bien parler des bétons, de la ferraille, des soudures, des choses comme ça. Donc, j'ai compris qu'on aura une autre séance dans quelques semaines ou quelques mois d'une personne de Framatome qui reviendra un petit peu sur la partie conceptuelle et constructive, finalement, des équipements. Ça, c'était intéressant parce que ça montre bien l'effet de pointe sur les moyens à mettre en œuvre. La falaise, ça fait moi qui suis un vieillard du nucléaire, on me l'a montré il y a 30 ans. Hein, et la falaise, on a beau s'approcher de la falaise, on ne veut pas la voir, quoi. etc. Et puis à un certain moment, on sent qu'on va se prendre la figure dedans, donc on commence à faire quelque chose, mais on a une vitesse pas suffisamment rapide pour prendre le virage, quoi. Mais c'est bien le débat d'aujourd'hui. Donc, alors, si vous voulez poser des questions, oui, alors, oui, attendez, on a un outil pour poser la question, que tout le monde l'entende et puis que l'enregistrement l'entende.
Bonjour. Hollande avait dit moins de 50% de nucléaire. Après tout ça, on va remonter à combien ?
Une bonne question. Alors effectivement, la disposition qu'avait prise François Hollande dans la loi transition écologique et pour la croissance verte, celle-là est tombée. Hein, elle est tombée avec la loi d'accélération des procédures nucléaires. En fait, il y avait un petit article qui a supprimé cette cible à 50%. Donc on n'est plus sous la possibilité ou sous la menace, ça dépend comment on le voit, de fermeture des 12 réacteurs qui étaient prévus d'ici à 2035. C'est une bonne question et je ne voudrais pas vous dire de bêtises, ça reste pas beaucoup. C'est-à-dire que, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais atteindre la décarbonation, atteindre les... je crois que la projection que je vous ai mise, elle était autour de 700 TWh, mais en fait, RTE est en train déjà de réévaluer ça à la hausse, parce que plus ça va, plus on se rend compte qu'on aura besoin d'électricité massivement. Je ne l'ai pas dit, mais quoi qu'il arrive, et même si on fait 14 EPR2, il y a un besoin énorme et massif de développement des énergies renouvelables. Parce qu'en fait, on peut se passer d'aucun levier. Et on n'a pas le luxe, en fait. Donc, il ne faut surtout pas opposer les énergies. Oui, l'État nous aide vraiment. C'est pour ça que je vous l'ai dit comme ça. Le monde a vraiment changé et on est vraiment dans un travail partenarial avec l'État. Ils sont exigeants, mais je pense que c'est ce que vous attendez aussi d'eux. Mais par contre, ils nous aident, oui. Oui, la loi d'accélération, c'était une vraie loi pour nous aider. La délégation interministérielle, c'est vraiment une cellule dans l'État qui est là pour nous aider.
Oui, là, on va passer le micro. Attendez. Oui, mais
alors il y en a quand même, parce qu'en bord de mer, si on regarde, si on part du sud, alors au sud-ouest, on a Golfech sur la Garonne, après on a quand même Blayé qui a 4 unités 900 MW sur l'embouchure de la Garonne. Et ensuite on a toutes les centrales normandes, la Normandie est fortement dotée, alors les Bretons, c'est l'exception culturelle. Les Bretons, c'est l'exception, mais sinon après en Normandie, on retrouve quand même Flamanville, Paluel, Penly. Et puis Gravelines, qui est la plus grosse centrale de France, avec ses 6 réacteurs, plus 2 EPR2. Non, il y a une production importante sur la façade ouest, hein, quand même. C'est assez équilibré, de toute façon, hein, la production, quand vous regardez la répartition, plus 6 vaut, oui, exact, plus 6 vaut. Quand vous regardez l'équilibre du réseau global, c'est relativement bien réparti. Alors, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, nous, alors on a un énorme sujet qui est lié à la préservation de la ressource en eau, aux défis que représentent les bords de rivière. On le sent bien sur le projet de budget. Le sujet des sites en bord de rivière va être essentiellement le sujet de l'eau. Mais c'est pas tant le fait que l'eau soit plus chaude. Nous, techniquement, aujourd'hui, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais on dimensionne, je crois, à 38 degrés. Donc on imagine qu'on est toujours capable de refroidir quand le Rhône sera à 38 degrés. Quand le Rhône sera à 38 degrés, on aura d'autres soucis. Hein. Mais en tout cas, là, on saura toujours refroidir la centrale. Oui, les poissons. Très bonne question. Alors, on n'est pas encore au bout du chemin sur le financement. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué, qui était dans la feuille de route de Luc Rémont quand il a été nommé. Paradoxalement, Luc Rémont, qui est pourtant le premier président de l'ère EDF 100% nationalisée, et un président qui a d'abord voulu qu'on regarde comment est-ce que on aurait pu fonctionner dans un monde 100% sur le marché. C'est assez paradoxal, mais il a commencé par dire à nos financiers, sortez du schéma où vous êtes persuadés que vous aurez besoin d'aide. Bon, je pense qu'on aura quand même besoin d'aide. Je pense qu'il a poussé le schéma au bout aussi pour démontrer ça. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'en fait, tout est imbriqué. On ne peut pas décider du financement du nouveau nucléaire sans régler le financement du nucléaire actuel, sa rémunération plus exactement. Donc là, vous avez peut-être vu que c'était en cours quand même d'aboutissement au niveau européen, puisqu'en plus, évidemment, tant qu'on est sur le marché européen, en tout cas, on est très, très, très dépendant des discussions avec nos collègues européens. Et donc, en fait, tout ça, ça avance, mais ça avance au rythme européen. Et donc, ça y est, là, je pense qu'on est prêt d'aboutir sur la régulation du nucléaire existant. Et ça va nous permettre, en fait, de savoir combien on va être rémunéré sur la vente de l'électricité du nucléaire existant et donc de savoir la part qui sera peut-être nécessaire en financement complémentaire. Donc, d'après les informations dont je dispose, on devrait aboutir sur un schéma de financement au premier trimestre prochain.
Oui.
Je crois qu'on... On ne vous entend pas, attendez. Alors, je vais répéter si vous voulez. La question, elle porte sur l'augmentation considérable des déchets nucléaires. C'est ça. Oui. Alors, les déchets qui seront produits par ces EPR, je ne l'ai pas du tout dit, mais effectivement, c'est exactement les mêmes déchets que ceux du parc actuel. Donc, on est... De toute façon, c'est les mêmes réacteurs. Hein, c'est des réacteurs à eau pressurisée. On est sur la continuité de la filière française existante et sur le parc existant. Donc c'est exactement les mêmes déchets qui vont prendre, du coup, utiliser les mêmes filières. Non, c'est pas une augmentation considérable parce qu'en fait plus ça va, plus on recycle. Il faut savoir quand même que le nucléaire, oui. Alors effectivement, donc les EPR2 comme l'EPR sont conçus pour utiliser ce qu'on appelle le MOX, donc qui est le combustible de récupération qui est fait à partir du combustible usagé. Globalement, plus on recycle, il y a eu des grandes avancées en matière de recyclage aussi des métaux. Tous les métaux, jusqu'à il y a peu de temps, et ça c'est les discussions autour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs qui ont permis ça. Jusqu'alors, n'importe quel morceau de métal qui rentrait en zone nucléaire, donc sur une centrale nucléaire, vous avez des zones physiques. Vous passez parfois au-dessus d'une petite ligne qui est dessinée au sol, et vous êtes dans ce qu'on appelle la zone à production de déchets nucléaires. Et jusqu'à il y a peu de temps, le moindre morceau de métal qui rentrait dans cette zone, s'il en ressortait, c'était un déchet nucléaire. Il était traité dans une filière de déchets nucléaires, on ne pouvait plus rien en faire. Maintenant, demain, après-demain, on va construire un technocentre à Fessenheim pour revitaliser la zone après l'arrêt de la centrale, qui va accueillir ces déchets très faiblement radioactifs, voire pas radioactifs du tout, qui ont pour seul défaut d'avoir passé ma fameuse signalétique. On va pouvoir accueillir ces métaux, les décontaminer s'il y a besoin et les réinjecter dans le circuit de recyclage des métaux. Donc on avance aussi sur ces sujets-là. Et puis globalement, il faut avoir en tête que le volume de déchets très fortement radioactifs, ceux qu'on mettra à bure, ceux qui sont les déchets vraiment ultimes, il faut vraiment avoir en tête que c'est un volume extrêmement faible en réalité. L'ensemble de la production électronucléaire française depuis le début, depuis les années 60, donc depuis le début de l'exploitation des réacteurs nucléaires en France jusqu'à aujourd'hui, ça remplit 2 piscines olympiques. Vous imaginez le million de Français qui ont la lumière et le chauffage depuis 60 ans, ça remplit 2 piscines olympiques en matière de volume global de déchets très fortement radioactifs. Donc c'est pas une augmentation, il faut dédramatiser cette quantité, je pense. Alors là, je suis un peu à la limite de mes compétences. Je peux vous donner mon avis très personnel, mais c'est compliqué. Sur le gaz, on s'est fait très peur quand même l'hiver dernier. On était quand même contents d'avoir des réservoirs de gaz et nos cycles combinés gaz qui ont pu tourner quand même à plein l'hiver dernier, qui nous ont quand même évité le blackout. Blackout qui serait quand même une catastrophe majeure hein, en termes d'impact sanitaire. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc le gaz, c'est quand même un backup dont on ne peut pas se priver, et encore moins le reste de l'Europe que nous. Donc il ne faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier, comme ont dit certains ministres avant moi. La politique de l'État, j'ai vu qu'ils ont fait un geste extrêmement important là. C'était très en discussion et finalement, ils ont exclu tous les fossiles des investissements d'avenir là. Ça c'est extrêmement... je pense que c'est un tournant parce que tant qu'on n'aura pas assaini la finance sur le sujet du carbone, tant qu'en gros, il sera intéressant pour BNP Paribas, sans les nommer, qui a été épinglé il n'y a pas longtemps là, parce qu'ils financent quand même à hauteur de plusieurs milliards d'euros par an des projets d'extraction fossile. Tant qu'on n'aura pas assaini ça, en fait, il n'y a rien qui pourra changer. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, l'argent continuera de gouverner à peu près toutes les décisions. Et là, quand même, la décision de l'État d'exclure les fossiles des investissements dits, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est ISR, là, les investissements renouvelables, je pense que ça peut quand même peser. Donc on sent qu'il se passe quelque chose. Après, aujourd'hui, Total génère quand même beaucoup, beaucoup de retombées économiques aussi. Et puis on a besoin quand même encore, pour beaucoup d'entre nous, de carburant dans nos voitures. On ne peut pas complètement fermer la porte et fermer... voilà. Il faut ménager la chèvre et le chou. Alors, c'est pas si compliqué. On a largement diversifié en fait hein, les approvisionnements d'uranium. Alors, c'est classé, je ne sais pas si c'est secret défense ou secret des affaires, les origines et les proportions des origines. Donc, je ne suis pas capable de vous dire dans le détail. Je sais vous dire que ça vient pas de Russie. Je sais vous dire que ça vient de pays très diversifiés, puisqu'en fait, les plus grosses réserves d'uranium, hein, c'est l'Australie et le Canada. Donc en fait, on est quand même assez serein. Il peut se passer n'importe quoi aussi en Australie et au Canada, mais n'empêche qu'il y a aussi des grands pays de l'OCDE avec qui on est partenaire et avec qui on ne pressent pas beaucoup de difficultés géopolitiques à court ou moyen terme, qui sont capables de nous vendre énormément d'uranium. Alors, il y a le Niger et il y a le Kazakhstan. Je crois que le président était... Voilà. Le président Macron était au Kazakhstan. Il est évident qu'ils ont dû parler aussi d'approvisionnement en uranium. Mais en tout cas, on a beaucoup diversifié les origines. On n'est plus dans la période où on dépendait énormément du Niger, notamment, hein, période il y a quelques années.
Puisque vous êtes sur ce sujet-là, je peux donner un petit complément qu'on n'évoque jamais dans la presse. L'approvisionnement fossile, c'est un approvisionnement de flux. Puisque finalement, on n'a que 3 mois d'hydrocarbures dans tous les pays du monde. Là, on peut avoir 5 ans en stock sans aucune difficulté. On les a. C'est-à-dire, s'il y avait vraiment des difficultés géopolitiques majeures, on n'est pas à sec tout de suite. Et on peut très bien, si on pressent que ça va arriver... mettre des stocks et la batterie est plus grosse, on va dire ça comme ça. Et ça, on n'en parle jamais. Le gaz et le pétrole, c'est du flux, et si toute la chaîne ne fonctionne plus, et on coupe simplement un maillon, là, on n'a pas de solution de repli. Hein. C'est difficile. Oui ? Oui, ben, il y aura plus de consommation. C'est... Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
En fait, est-ce qu'il faut
enfin, bon, il y a de quoi faire.
Ce qu'il faut avoir en tête, parce qu'effectivement, c'est un flux qui est très différent. Et donc, de toute façon, en gros, on est aujourd'hui, l'uranium qui est en train d'être enrichi à Tricastin, il sera utilisé dans 5 ans. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est un flux qui est long. Et donc, s'il se passe quelque chose au Kazakhstan, on a largement le temps de réorienter les approvisionnements parce que de toute façon, ce n'est pas l'uranium de tout de suite qui est en train d'être... Donc, c'est ça qui fait que ce n'est pas vraiment c'est pas une vraie menace, ce sujet de l'approvisionnement en uranium.
Bien, encore? Oui.
Toute la politique énergétique de la France repose sur une hypothèse, c'est on réduit par deux, en gros, la consommation énergétique. Mais comment on s'y prend et est-on sûr d'y aboutir, oui.
Alors effectivement, c'est franchement en dehors de mon champ d'activité, après j'ai une opinion. Oui, c'est un sacré défi, mais de toute façon, on est face à un sacré défi. Enfin, le Rhône à 38 degrés, on est face à un sacré défi. Hein. Et donc, oui, il y a beaucoup d'énormes champs qui vont s'ouvrir devant nous, là, sur lesquels il va falloir des politiques très volontaristes. Alors moi, je me réjouis qu'il y en a au moins une qui commence à être volontariste. C'est une forme de préparation de l'avenir quand même, ce qu'on fait nous. Mais oui, est-ce qu'on peut être optimiste sur la capacité à diviser par deux? Je pense qu'en fait, on n'aura pas le choix. Alors, de toute façon, c'est comme pour les mégawatts installés décarbonés. Chaque geste compte.
C'est les petites rivières qui font les grands fleuves.
Pardon ?
Oui. Non, mais on n'y arrive pas.
Je partage complètement. Hein. Il y a un changement culturel à opérer et on est sur des scénarios qui ne sont pas des scénarios extrêmes. Hein.
Ah oui, c'est la clim. Oui, ben bien sûr.
Ça commence. C'est pas encore. On n'a pas du tout en France. On n'a pas du tout basculé dans plus de conso l'été que l'hiver. Hein. C'est pas encore vrai. On a des pics. C'est vrai. Pendant la canicule, on commence à avoir des pics, mais qui n'ont rien à voir avec les pics d'hiver. On n'est pas comme aux États-Unis, exactement.
Bien. Oui. Encore une question, et puis on va. Oui.
Non, en fait, mais il va y avoir une limite physique avant qu'il va s'opérer, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de ressources dans le monde pour que tout le monde ait une voiture électrique.
Voilà.
Non, mais on va. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, on va faire face à plein de limites physiques dans tous les domaines qui font que de toute façon, on va être contraint par un principe de réalité. Mais c'est un peu comme l'hiver dernier, hein. Finalement, l'hiver dernier. Je pense que beaucoup de Français ont compris qu'on était quand même dans une situation difficile. Les consommations ont baissé de 10%. Hein. Et sans faire d'efforts. C'est ça. Ben, sinon, on n'y arrivera pas.
Bien. Le sujet est immense. Donc, on remercie Madame Dionysi.
Merci.
De s'être déplacée. Et surtout d'avoir eu un éclairage. Qu'on n'a pas l'habitude d'exposer dans nos conférences un petit peu autour du nucléaire. Donc, je suis très content que vous soyez venu parce que ça nous sort un peu de la ferraille et des soudures. Et donc, on va avoir une séance technique classique.
Exactement.
Voilà.
Merci. Merci pour votre invitation. Merci.